relève cette participation aux Jeux Olympiques à son actif. Pas de médaille, malheureusement. Il est aujourd'hui président du Comité Olympique Belge et il ouvre donc son album Souvenirs Olympiques ce matin. Et c'est avec vous, Michel Lecomte.
Jean-Michel Seb, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'invité olympique de la première ce matin dans une quinzaine très très occupée en tant que président du Comité Olympique Interfédéral. Mais les Jeux Olympiques chez vous, c'est une longue histoire. Cette participation aux JE, un exploit ça, hein?
Oui, bah, 88 la première fois, jusque 2012, cette participation. C'est vrai que le mouvement olympique et les Jeux olympiques ont finalement été mon moteur dans ma carrière de sportif et forcément encore toujours mon moteur aujourd'hui.
En 88 particulièrement, parce que ces Jeux-là vont changer toute votre carrière.
Oui, tout à fait. La qualification pour Séoul en novembre 87 à Karlsruhe, où là, à 18 ans, ben, je bats 5 joueurs qui sont mieux classés que moi pour me qualifier et finalement atteindre le rêve de tout sportif avec la première participation aussi du tennis de table aux Jeux de Séoul.
Oui, en effet, ils étaient inscrits au programme pour la première fois. Séoul, c'est au-delà du sportif, évidemment, un contexte politique particulier avec la Corée du Nord, la Corée du Sud, certains pays qui ont boycotté très peu, mais ça aussi, vous en souvenez.
Bah, comme jeune gamin, j'étais impressionné d'être au jeu et en même temps de mon appartement où je partageais, que je partageais avec les tireurs à l'arc, si ma mémoire est bonne. Bah, on voyait les fils barbelés et puis derrière l'armée et les chars. Donc c'était impressionnant pour un gamin de 18-19 ans de voir tout ça et de découvrir effectivement toute la grandeur des jeux et la géopolitique et la pression qui est mise sur les jeux parce que c'est l'événement qui regroupe le plus de monde.
Et ça n'a pas changé à travers l'histoire.
Non.
La pression géopolitique. Mais il y a aussi la fascination que vous avez pour les stars. Vous êtes un grand amateur de tous les sports. Et il y a des stars à n'en plus finir autour de vous.
Ben c'est vrai qu'à l'époque, j'avais mon appareil photo Kodak, hein, que je faisais tourner les petites roulettes. On pouvait faire développer les photos là-bas au village, donc c'était génial. Et c'est vrai qu'au moment de la cérémonie d'ouverture, ou juste avant de rentrer sur le stade, toutes les délégations étaient rangées les unes à côté des autres. Et là, j'essayais d'aller faire des photos. Alors j'ai, avec Sabatini, joueuse de tennis à l'époque, Steffi Graf, Carl Lewis était au milieu de la délégation américaine, impossible de s'approcher de lui. Mais donc j'ai un fameux album de 88 avec toutes les photos des grandes stars de l'époque.
La star dans toutes ces stars qui vous fascinait le plus, c'était Carl Lewis.
C'était Carl Lewis, d'ailleurs ça se voyait au moment quand il arrivait dans le village. Il y a 10 500 athlètes qui sont chacune finalement une vedette, qu'elle soit régionale, nationale ou internationale, mais au final il y a 10-15 grandes vedettes, et quand Carl Lewis arrivait dans le village olympique, on voyait bien un attroupement parce que tous les autres athlètes, ou un grand nombre en tout cas, voulaient essayer d'avoir une photo ou un autographe avec lui.
Et puis il y a l'affaire Johnson Lewis qui l'a fait s'écrouler chez vous quelque chose dans le rêve.
Oui, c'est vrai, la fin de la naïveté. Moi, je ne m'imaginais pas cette grande messe avec du dopage potentiel. Effectivement, quand ça a explosé, parce que c'est vraiment ça, entre l'affaire Ben Johnson, après ce 100 mètres tellement attendu, la fin de la naïveté et de voir que finalement, bah, le dopage aussi existait dans le sport de haut niveau. Et ça, c'est un peu mon monde qui s'effondrait aussi.
Oui, 88, ça reste le lancement de votre carrière qui va durer de nombreuses années, hein, puisque Olympique, elle se terminera en 2012. Mais il y a Barcelone après. Alors Barcelone, c'est bien, il y a le sportif, mais il y a aussi la plage, pas loin.
Ben oui, alors c'était sympa, mais en même temps, le village était au bord de la plage, donc il n'y avait pas d'airco dans les chambres, il faisait très très chaud, et donc ceux qui avaient fini leur compétition au début des Jeux, ben forcément ils sortaient dans Barcelone, et puis ils rentraient très très tard, donc pour rester focus sur sa compétition, c'était assez compliqué. Donc souvent, j'ai dit, Barcelone, c'était un petit peu le Club Med, et donc je pense que pas mal de comités olympiques ont un peu serré la vis pour les éditions suivantes.
Vous étiez sixième mondial hein, à cette époque-là, à Barcelone. Et puis il y a les jeux de référence qui arrivent en 96, c'est Atlanta. Et là, on ne va pas pour vous voir participer, on vous regarde à la TV parce qu'on est convaincu que vous allez gagner. Et ça ne se passe pas et que vous allez remporter de médailles.
Oui, 96, c'est un peu particulier pour moi parce que je suis porte-drapeau pour la première fois, donc ça a été un moment d'honneur incroyable. Et puis un super parcours où je perds pas un set jusqu'en quart de finale. Et puis malheureusement, il y a un jour de repos pour la première fois dans une compétition individuelle entre le 8e et les quarts. Je gère pas bien cette journée-là, un petit peu comme le jour de repos au Tour de France. Et puis je perds mes jambes, enfin là en l'occurrence mes bras ou ma tête, je sais pas. Et puis je perds contre Corbel en quart. Effectivement, j'ai eu l'impression que les gens étaient venus sur ce match-là pour me voir cocher une médaille supplémentaire pour la Belgique parce que ça cartonnait bien avec Ulla Werbrook, les judokas, Fred de Burgrave en 96. Et bon, au final, malheureusement, pas de médaille pour moi. Ma meilleure année était 94, mais c'était pas une année olympique.
Voilà, il vous a manqué des jeux en 94, Jean-Mi, c'est ce qu'il aurait fallu, parce qu'à ce moment-là, là, ça n'aurait pas pu vous échapper. Vous étiez au sommet de vos performances et de votre état de forme.
Oui, 94, bah, numéro 1 mondial, champion d'Europe, l'European Masters, la Ligue Européenne, la Champions League ou la Coupe d'Europe à l'époque. Donc effectivement, si les jeux avaient été en 94, je dis pas que ça aurait été presque sûr, mais c'était en tout cas de loin ma meilleure année.
Alors, participer aux Jeux, c'est presque équivalent à un titre important. Champion du monde, vous avez été vice-champion, champion d'Europe. La participation en elle-même, et c'est ça que vous soulignez, au-delà des médailles que vous n'êtes pas allé chercher, ou de la médaille que vous n'êtes pas allé chercher, qui laisse un peu de frustration, c'est vrai que cette participation, ça reste le Graal.
Oui, alors le Graal du Graal, c'est évidemment d'avoir la médaille et forcément la médaille d'or. Mais quand je suis dans le mouvement olympique ou avec des anciens grands champions, c'est vrai que mes 7 participations les impressionnent, même eux qui ont été champions olympiques. Donc voilà, ça compense un petit peu le fait que j'ai pas eu de médaille. Mais voilà, aujourd'hui, forcément, je dois faire avec. C'est passé, mais je sais aussi que parfois, quand il y a des médaillés, je dois les m'asseoir ailleurs.
Mais vous êtes un bon tempérament, prenez le recul par rapport aux choses. À Athènes, ben vous êtes de nouveau la porte-drapeau pour des raisons différentes, parce que Justine ne peut pas être cette porte-drapeau.
Oui, au départ, ça devait être Justine Hénin, mais elle avait sa compétition le lendemain de la cérémonie d'ouverture, son premier tour, donc finalement, elle a décliné. Et moi, j'étais toujours en Belgique, donc ils m'ont vraiment appelé au dernier moment. Il fallait voir aussi si le matin même, il y avait un avion, et s'il y avait de la place dans l'avion. Et donc, je suis arrivé au village, ils ont fermé les portes pour la sécurité derrière moi. Donc ça a été une surprise incroyable d'être porte-drapeau pour la deuxième fois en 2004.
Alors une élimination qui fait que vous allez, avec Justine Hénin, suivre son parcours et vers la médaille d'or jusqu'au bout. Vous étiez presque côte à côte tout
c'est
le temps.
C'est ça, une élimination une nouvelle fois contre un Chinois, mais de République Dominicaine. Il y a beaucoup de Chinois qui étaient naturalisés dans notre sport. Mais effectivement, après, bah, j'ai été suivre pratiquement, pas le premier tour, mais après du deuxième tour jusque la fin, bah, le parcours fantastique de Justine.
Oui, des Chinois, on en parle puisque c'est Pékin en 2008. Et écoutez ben, ce qu'une supportrice chinoise pense des frères Sèvres.
J'ai entendu parler du Sèvres. Il me semble qu'il y en a deux. Le grand Sèvres et le petit Sèvres. Tous les deux sont des pongistes de haut niveau en Belgique. Je pense que le grand a participé en 88 pour la première fois. Et il participe encore, ça fait 20 ans aujourd'hui. C'est pas évident.
Admiration totale pour Saifu, les frères Saifu, hein, parce que votre frère a participé à 3 reprises et vous avez joué en double avec lui à Barcelone et à Sydney. Les Jeux à Pékin, le pays du ping, qui est devenu le pays du ping depuis 94-95. Il n'y a plus que eux qui sont au sommet.
Bah, c'était déjà le pays du ping avant, dans les années 80. Il y a eu une domination européenne de 89 à 95. Et puis depuis 95, à part quelques exceptions, Wallner, Samsonov, Timo Bolsch, Laguerre, voilà, c'est toujours aujourd'hui les Chinois qui dominent à l'image du classement mondial où c'est les 5 premiers des Chinois.
Les Saifu restent inoubliables. Les frères Saifu, en effet, le grand et le petit, comme le disait notre interlocutrice, les derniers Jeux à Londres, avant ceux de dirigeants, de représentants des athlètes, à l'échelle belge et européenne, à Rio, et puis maintenant, depuis que vous êtes le président du comité olympique interfédéral, parler des athlètes, de l'encadrement des athlètes olympiques, il y a des pays qui les mettent dans l'ouate, c'est pas le cas de la Belgique, tout à fait, mais vous y tenez à ça.
Bah alors il faut essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles, évidemment, ça c'est très important et on y tient à cœur, mais en même temps il faut pas que ce soit de l'hyper cocooning non plus, parce que les athlètes doivent aller puiser peut-être dans les quelques pourcentages qui manquent, justement cette force de caractère qui fait que bah, ce sont des grands champions qui n'ont plus peur d'afficher leurs ambitions plus haut niveau, à l'image des hockeyeurs, de Nafi forcément, de Remco, etc. Donc on a une très très belle délégation qui est déjà bien plus grande que celle de Tokyo, donc ça c'est déjà une belle chose.
Oui, cet encadrement qui n'était pas totalement ouaté, je dirais, ça vous a forgé le caractère et c'est aussi une explication de certains de vos exploits.
Oui, parce que forcément, à mon époque, il n'y avait pas tout ce qui a été mis en place par la suite. Il n'y avait pas de centre de formation, donc il a fallu aller puiser. Et puis, dans notre petit pays, que je dis ça avec beaucoup de tendresse, évidemment, on doit aller puiser vers d'autres choses et dans la force de caractère. Et ça, les athlètes l'ont vraiment à l'image des performances et des prestations de nos sportifs ces derniers temps.
L'image que vous gardez de tous ces jeux auxquels vous avez participé?
Oh, c'est difficile d'en
vous
sortir
avez
une. Bon, je dirais les premiers, parce que les premiers, ça reste la magie, c'est le rêve. Le jeune gamin qui regardait Nadia Comaneci en 76, Van de Waal en 80, Carl Lewis à Los Angeles. Et puis finalement, j'ai pu y être et finalement, j'y étais cette fois.
Voilà, merci d'avoir été notre invité olympique.